Mon ami Ham, le chimpanzé des étoiles. Un livre écrit par Fabienne Blanchu, paru aux éditions du Livre de Poche Jeunesse. Cet ouvrage a reçu le prix Première Victor du Livre Jeunesse en 2019. Mon ami Ham, le chimpanzé des étoiles. Chapitre 1, 27 septembre 2012.
2 ans après, je peux dire à quel instant précis Ham est revenu dans ma vie. Je l'ai inscrit en lettres capitales dans mon agenda. 27 septembre 2012. Il est 13h07 quand le SMS de Laurel, ma femme, s'affiche sur l'écran de mon iPhone. Je suis à New York. Mon agent littéraire avait tenu à m'inviter à déjeuner pour fêter la sortie de mon dernier livre éthologique, Le Nouveau Singe Nu. J'occupe, à titre honorifique, la chaire de zoologie de l'Université de Columbia. À ce moment de ma vie, être publié est devenu un rituel biennal auquel je me plie de mauvaise grâce, la partie promotionnelle n'étant plus du tout ce après quoi je cours. Il semble que j'ai passé l'âge des éloges et de tout le tralala. À vrai dire, à 68 ans, je trouve un côté pathétique à me montrer à la télé pour vanter mes livres. Chaque promotion m'oblige à quitter le confort de notre maison de Chapel Hill, au moins pendant 3 jours. Phobique de l'avion, je dois emprunter le 80 Carolinian qui assure, certes quotidiennement, mais en 10h23, la liaison entre la gare de Raleigh-North Carolina et celle de Penn Station à New York. Un trajet long et ennuyeux, surtout si Laurel n'est pas de la partie. L'avion, d'aussi loin que je m'en souvienne, n'a jamais exercé sur moi la fascination qu'il exerçait sur les autres. À 13 ans, je me rappelle que Tom, mon meilleur ami de l'époque, n'avait qu'une idée en tête, voler. Moi pas. Alors, autant de fois qu'il est possible, j'évite ce genre de voyage anxiogène. Les routes, le rail, tout est préférable à l'aérien. Quand on habite comme moi, Chapel Hill, qu'on est un vieux grincheux et qu'on ne veut pas déroger à ses principes, on prend le 80 Carolinian et on attend que ça passe. Long et ennuyeux, mais faisable. La preuve. Dire qu'en 2h30, Delta Airlines relie Raleigh-Durham à JFK New York, maugrait Laurel. Mais elle le redit juste par habitude. Ce mercredi 26 septembre 2012, elle ne montera pas avec moi dans un des wagons gris et bleus. Le lendemain, en tant que porte-parole de Laurent Houtan-Outreach, elle va donner une conférence à la Public Ivy. Des étudiants, des collègues, des chercheurs et des curieux de tout poil ont depuis longtemps bloqué la date dans leurs agendas. Chaque prise de parole de Laurel est très attendue, et ce n'est que justice. Ma femme est une brillante primatologue. Depuis la veille, ma valise est bouclée, et j'ai réservé une chambre au JW Marriott Essex House, qui donne sur Central Park South. J'y ai mes habitudes depuis la sortie de mon premier livre en 1984. Laurel et moi, petit déjeunons, elle m'accompagne à la gare. Elle conduit notre Lexus RX400H hybride blanc métallisé. 25 miles durant, nous écoutons WNCU, une station locale qui passe de vieux standards. Devant la gare, nous nous séparons en nous embrassant. Je récupère ma valise dans le coffre et Laurel attend que je m'engouffre dans le hall avant de remettre le moteur en marche pour reprendre la direction de la maison. Pour moi, le voyage va être long. Je m'y attends. Il a été en plus bruyant. Un bébé a pleuré une bonne partie du trajet. Ce n'était pas prévu au programme et cela me met en rogne pour le reste de la journée. « Je t'avais conseillé de prendre des boules quies » est la réponse de ma femme, alors que je lui raconte l'horrible Raleigh New York. « Fais-moi penser à ne plus écrire une ligne publiable, » dis-je, espérant me faire plaindre. Mais Laurel me connaît trop bien pour se laisser prendre. Oh, « ce n'était quand même pas si épouvantable, si ?»« Non, non, tu as raison. Sur une échelle de 0 à 10, ça en valait 8, et demain, ça sera pire. »« Tu n'es qu'un vieux grognon, Shapiro, mais ne change rien. »« C'est trop tard, de toute façon, non ?»«
Sans doute. » J'entends son sourire dans sa respiration. « Je t'aime, Laurel. »«
Moi aussi, Josh. »« À demain. Tu me raconteras ton déjeuner. » Nous raccrochons ensemble, comme on le fait depuis toujours. J'aime cette femme à la folie. Le lendemain, je suis attablé au Marea, un restaurant gastronomique spécialisé dans les produits de la mer. En face de moi se tient mon agent, Lee Bacon.
Tout en mangeant mon entrée faite de crostinis aux oursins, délicieux, soit dit en passant, j'écoute d'une oreille distraite l'offensive marketing que Lee et son équipe ont mise en place.
Boston, Cleveland, Chicago, Kansas City, Houston, L.A., l'Oprah Winfrey Show, celui de Jay Leno sur NBC.
Je reste silencieux, le laissant se gargariser avec son plan de bataille. Fais alors le portable dans la poche intérieure de ma veste. Lee s'interrompt. Je le regarde d'un air contrit, m'excuse et consulte l'écran. Il est 13h07. Laurel m'écrit. 1749 miles, smile. Elle a le secret des SMS laconiques qui me rendent fou. Je souris toutefois à son jeu de mots. Je n'ai qu'une envie, planter Lee et rappeler ma femme. Je ne fais aucune de ces deux choses. Je remise mon portable dans la poche de ma veste, j'attends qu'on me serve la suite en commandant un deuxième verre de vin. Finalement, le déjeuner ne s'éternise pas. Nous échangeons une poignée de main sur le trottoir et Lee monte dans un taxi avec la promesse de m'envoyer le détail de ma future tournée par mail. Je traverse l'avenue en face du restaurant et me retrouve dans Central Park. Le nombre 1749 tourne dans ma tête. Je m'assois sur un banc. Je suis du regard plusieurs joggeuses qui s'éloignent à petite foulée et je rappelle Laurel. Elle décroche à la première sonnerie. « Monsieur mon mari, tu m'expliques ton SMS ?» Laurel me dit de quoi il retourne. Je me tasse sur le banc et gémis. Au loin, ou peut-être tout près, je ne sais plus, un chien se met à aboyer.
Chapitre 2. 13 juin 1957. À quelques jours de mon anniversaire.
Bien avant moi, Scooper Nong, notre labrador, qui est en train de dormir sur mon lit, soulève la tête avant de la reposer entre ses pattes. J'entends par la fenêtre grande ouverte de ma chambre les roues de la Chevrolet Nomade familiale crissées sur le gravier de notre allée. Le moteur s'arrête, la portière s'ouvre, puis se referme. Mon père rentre tôt aujourd'hui. Tandis qu'il se dirige vers la porte de derrière, il siffle « That will be the day » des crickets, qui trustent la première place du palmarès depuis plusieurs semaines. Je jette un œil sur ma montre. Il est 15h42, ce qui est très, très inhabituel. J'entrouvre la porte de ma chambre pour écouter, puis retourne m'asseoir à mon bureau. Je fais signe à Scooper Nong, qui a ouvert un œil de ne pas bouger. Il remue la queue. Il a compris.
« Judith !»
appelle mon père sitôt dans la maison. Comme chaque mardi à cette heure-ci, mais il l'ignore ou l'a oublié, ma mère est au sous-sol en train de repasser. Son transistor doit être réglé sur KLON, sa station préférée.
« Lucie !»
enchaîne-t-il en ouvrant la porte du frigo. Mais comme chaque mardi à cette heure-ci, ma sœur Lucie supporte l'équipe de football du collège. Elle est cheerleader et, accessoirement, la petite amie de Seth Morgan, le quarterback de l'équipe.
« Josh ! Mais où êtes-vous tous ? »
grogne-t-il, en entamant la montée de l'escalier.
« Scooper Nong ! Où tu es, mon chien ? » ?»«
Même le chien a disparu, » maugrait-il.
Avant qu'il n'atteigne le palier, je sors de ma chambre. Scooper Nong sur les talons.
« Josh, te voilà !»
dit-il tout en caressant la grosse tête du chien.
« Où sont ta mère et ta sœur ?»
Sans même attendre ma réponse, mais c'est vrai que je ne suis pas rapide avec les mots, il ajoute.
« Je me change, hein, convoque le powwow, il faut que je vous parle. »
Le powwow, c'est son expression pour parler d'une réunion au sommet où nous devons tous être présents. Et ça, depuis que nous sommes allés voir en famille au cinéma la dernière chasse. En bon fils de militaire, je fais ce qu'il me demande. Je descends et de la porte qui mène au sous-sol, j'appelle ma mère. J'entends Mam éteindre son transistor et débrancher le fer. À peine remontée, elle me questionne. Une fois qu'elle sait que Dad est rentré, elle fait les 100 pas dans la cuisine. Elle est nerveuse. « Il avait l'air souffrant, Josh ?» Je fais non de la tête. « Il t'a dit pourquoi il était là ?»« Non. Mais on va pas tarder à le savoir. » Mon père descend enfin. Il embrasse Mam et me sourit. Il a troqué son uniforme d'officier contre une tenue civile, pantalon de toile beige et polo rouge. Il est grand, puissant, sûr de lui, même nu-pied.
C'est ce que je ne peux m'empêcher de penser en le regardant boucher dans la pièce. « Saul, tu vas bien ?» s'inquiète Mam.
« Je vais très bien !»
la rassure-t-il en se servant un verre de citronnade.
« Où est Lucie ?»«
À l'entraînement. »«
Elle rentre quand ?»
Ma mère se tourne vers moi. « 18 heures. » Mon père paraît contrarié, puis se décide.
« Bon, tant pis. On lui annoncera plus tard. »«
Saul, tu me fais peur. »
« Je viens de recevoir une nouvelle affectation. Je suis muté au Nouveau-Mexique. Je prends mes nouvelles fonctions dans 5 semaines. Et bien évidemment, on part tous. »
Si ma mère paraît soulagée, pour moi, c'est le coup de massue. Mon père est encore en train de parler, mais je n'entends plus rien. Je sais juste que dans un mois, nous quitterons San Francisco, où je suis né et où j'ai toujours vécu, pour un autre état. Je quitte la pièce en trombe, cours vers le garage, prends mon vélo et pédale comme un fou. Je dois empêcher ça, et pour une fois, ma sœur pourrait être mon alliée. Je roule, à me faire exploser les poumons en direction du terrain de sport. Je suis rouge et à moitié mort quand j'arrive au bord de la pelouse. Je jette mon vélo sur le sol et essaye d'attirer l'attention de Lucie. Mais le match d'entraînement a commencé. Ma sœur et quelques-unes de ses amies, dont Jessie Borgman, donnent de la voix en exécutant des figures improbables. Jessie Borgman, celle qui partage, à part égale avec Audrey Hepburn, mes rêves les plus érotiques.
« Shapiro, qu'est-ce que tu fiches là ?»
Je sors de ma torpeur. C'est John Smith, l'aide du coach. Celui qui porte les ballons, distribue les maillots et range les vestiaires. Il n'a pas inventé l'eau tiède, mais il est plutôt sympa avec moi. Et pourtant, je ne suis pas le type le plus populaire du collège. Je ne pratique aucun sport, je bégaye, et le pire pour les sportifs et associés, je passe mon temps avec un bouquin à la main. De me voir arriver comme un bolide sur mon deux roues a dû le perturber. « Mâche !» Toujours écarlate, je le sens à la chaleur qui émane de mes joues, je parviens à souffler. « Sœur !»«
Tu veux voir ta sœur, petit ?»« Mais là, tu vois, c'est pas possible. L'entraînement vient de commencer. »
Il a raison, évidemment. Et j'enrage. Je donne un coup de pied dans le guidon de mon vélo et décide de remonter en selle. C'est mon copain Tom que je vais aller voir. Il aura peut-être une idée. Tom a mon âge. Il n'est pas dans la même école que moi. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an à l'épicerie où nos mères nous avaient envoyés. La sienne pour une bouteille de lait, la mienne pour des crackers. Il m'a entendu bégayer à la caisse et je l'ai entendu se faire charrier dans une des allées par Perry et Teddy Hader, les terreurs du quartier. Il l'appelait Pinky Red, à cause, je l'ai supposé, de ses taches de rousseur et du rose qui envahissait son visage. Quand je suis sorti, j'ai vu qu'il serrait les poings. Je ne voulais pas le déranger, mais on avait attaché nos vélos au même poteau. Du coup, on a fait une partie du chemin ensemble. On habite à 5 rues l'un de l'autre. Tom est là quand j'arrive tout en nage. J'en aurais pleuré de soulagement. Et je pleure même dans les bras de sa mère, qui ne comprend rien. Une fois seul, je lui raconte mes malheurs.
Ben, mon vieux, ça pour une foutue nouvelle, c'est une foutue nouvelle, il fait, en reprenant un des sandwichs que sa mère nous a préparés. « Je ne vois pas comment tu pourrais ne pas y aller. Faut être lucide, tu vois. » C'est ce que j'aime, cet homme. On ne s'invente pas d'histoire, ni sur ce qu'on est, ni sur ce qu'on pourrait ou ne pourrait pas avoir. Et là, clairement, il me dit que je suis foutu.
Bah, « Tu comprends. Vu le grade de ton père, je ne vois pas comment il renoncerait à lui. Et puis tu sembles dire que ta mère n'a pas protesté ni rien. »
Quelqu'un sonne à la porte d'entrée. Tom se lève pour ouvrir. C'est une de leurs voisines. Elle confie son fils, Steve, à la garde de la mère de Tom. Les deux femmes discutent, tandis que le petit Steve, pas très à l'aise sur ses deux jambes branlantes, tend les bras vers nous en riant.
« C'était plus simple quand on avait 2 ans, pas vrai ?»
me lance Tom, en me donnant une bourrade.
« Personne ne m'appelait Pinky Red, et toi, tu n'en avais rien à faire de déménager. »
J'acquiesce. Je suis à nouveau au bord des larmes. Je n'ai aucune... Mais alors, aucune envie de quitter la Californie pour le Nouveau-Mexique, un état géométriquement carré avec un drapeau jaune pisseux, sans l'océan, ni Tom.
« Tu deviendras un conquistador, mon pote !»
ajoute mon copain, ce qui m'achève. À mon retour à la maison, Mam, Lucie et Dad sont déjà à table. Je m'attends à me faire passer un savon, mais rien. Je m'attends à découvrir ma sœur accablée,
Il n'en est rien non plus. Elle discute et plaisante avec les parents. Soudain, elle prend conscience de ma présence.
« John Smith a dit que tu étais passé et Jessie m'a dit qu'elle t'avait vu repartir. Tu voulais un truc spécial ?»«
Non, non. Laisse tomber. »« Josh, nous comprenons que c'est difficile pour vous. » »«
Pas pour moi, ma'am. »
la coupe ma sœur. Je regarde Lucie ébahie.
« Mais nous avons toujours su que ce jour arriverait. Ton père obéit à des ordres que lui donne le gouvernement. »
J'ai la tête dans mon verre, mais je ne fais rien. Je ne bois pas. Je cache juste mes lèvres qui se remettent à trembler.
« Tu es parti trop vite tout à l'heure, enchérit mon père. Je prends la direction du Holloman Aerospace Medical Center. Tu vas adorer cet endroit et ce que je vais y faire.
Ça m'étonnerait. » Je jette ma serviette sur la table, pousse ma chaise en arrière et monte 4 à 4 les marches. Je claque la porte de ma chambre. 10 minutes s'écoulent et j'entends gratter à la porte. C'est Lucie, sa manière de faire. Je lui dis d'entrer, elle s'assoit au bord de mon lit.
« Josh, tu n'es plus un bébé. Tu vas avoir 13 ans, quoi. »
« Justement, merci du cadeau d'anniversaire. »
« Josh, tu es ridicule. Essaye de voir le bon côté.
Bon côté, lequel ?»«
Ben, on va voir du pays.
Et ton amoureux ?»«
Qui ?»«
Seth ?» J'opine. « Je l'ai quitté la semaine dernière, m'assène-t-elle sans aucune émotion. » Je l'ignorais. Je suis à la fois abasourdi et désespéré, moi qui comptais sur ma sœur et son histoire d'amour sérieuse pour essayer de faire pencher la balance, ou du moins retarder l'échéance, ben je dois bien me rendre à l'évidence. C'est plutôt mal barré.
Chapitre 3. 17 juin 1957.
Le rire cristallin de ma sœur Lucie recouvre les aboiements de Scuppernong. Leur chahut provenant du jardin résonne dans mes oreilles au moment où je m'apprête à descendre pour les rejoindre, même si je n'ai ni faim ni envie de retrouver ces traîtres. Je suis à mi-chemin dans les escaliers quand... «
Josh, descends maintenant, s'il te plaît. J'ai besoin que tu apportes le maïs à ton père. »
Ma mère a des yeux derrière la tête et des oreilles partout. Rien de ce que je fais ne lui échappe, une vraie mère juive. C'est à ça que je pense, chaque fois qu'elle me fait un coup comme celui-ci. Et c'est bien de ça dont il s'agit, car en ce moment précis, elle me tourne le dos, s'affairant dans la cuisine pour concocter mon repas d'anniversaire. Elle est habillée d'une robe à motifs fleuris dont les tons pêche cintrés à la taille. Ses cheveux châtain clair forment un carré court, retenu par des lunettes de soleil papillon. C'est la paire que nous lui avons offerte à Noël avec ma sœur. Le miroir du couloir me renvoie mon propre reflet. Plutôt grand pour 13 ans, mince, les cheveux blonds et les yeux noisettes. Je porte mes Levi's, un t-shirt blanc immaculé et des Chuck Taylor. Je m'aperçois que j'ai oublié ma montre et je repars dans l'autre sens.
« Une minute, mam !»
Je grimpe les dernières marches, deux par deux. Je pousse la première porte à droite en haut du couloir. Sur mon bureau trône la maquette d'un Lockheed F-104 Starfighter que je suis en train de terminer. À droite, sur l'étagère, je repère ma montre. Elle est juste à côté d'un cadre que j'ai retourné depuis 4 jours. Je m'en saisis et me force à regarder le cliché. Je dois avoir 11 ans sur cette photo. Et comme mon père, j'affiche une mine bronzée et réjouie. J'ai l'air débile. Mon père porte sa tenue blanche d'officier et m'entoure de son bras. Derrière nous se détache sur le mur du bâtiment 4 lettres. NASA. Mon sourire idiot de ravi de la crèche me donne envie de vomir et je n'ai qu'une envie, l'effacer. Je déteste jusqu'à l'idée de l'affectation de mon père. Un frisson me parcourt et malgré moi, ma main se met à trembler. Mes doigts blanchissent sur le cadre que je serre bien trop fort.
« Ah, tu es là !»
s'exclame Mam en entrant dans ma chambre. Mon pouce se crispe et le verre se fend. Du sang se met à couler.
« Oh mon Dieu, Josh, ça va ?»
demande ma mère tout en s'activant pour trouver de quoi entourer mon doigt blessé. Je suis incapable de parler.
Mais tu es blanc comme un linge. Assieds-toi, m'ordonne-t-elle tandis qu'elle court dans la salle de bain. Je l'entends ouvrir puis refermer l'armoire à pharmacie. Elle revient avec la trousse de secours. Me revoilà à te faire des pansements comme quand tu étais petit, dit Mam pour meubler le silence. Voilà, t'es fini. Mais merci, je réponds de ma voix bien trop aiguë, de celle que je prends quand je suis nerveux. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Maman m'embrasse et me pousse doucement vers la porte. Allez, viens, on descend. Ils attendent le roi de la fête. Docilement, j'emboîte le pas de ma mère. Ça y est, tu t'es pomponné ? Me demande ma sœur en arrivant vers nous. Tu lui as dit, Mam, qu'il ressemblait à James Dean ? La poupée au pouce en moins ? Me lance-t-elle avec une œillade. Lucie, 16 ans, ma sœur. Elle aurait pu être mon alliée. Elle resplendit. Je ne la comprendrai jamais. Je la déteste. Tous la qualifient de jolie. Pour moi, c'est juste ma sœur, ma fichue sœur, qui n'a ni les yeux, ni sa langue dans sa poche. Je m'apprête à lui répondre, mais Mam me devance. « Lucie, laisse ton frère tranquille, au moins le jour de son anniversaire. Super anniversaire !» Je bougonne. « Très bien, je retourne voir Dad et vous laisse entre filles !» rajoute-t-elle dans un mouvement de repli. « Lucie !» gronde gentiment Mam. Mais ma sœur est déjà loin. J'ai la tête qui tourne. Du barbecue monte l'odeur du maïs et de la viande grillée. Mon estomac grogne. Mam me pousse devant elle. Le soleil brûlant et estival de Frisco m'éblouit. J'ai l'impression de rentrer dans la lumière. « Josh ? Josh ? Saul, fais quelque chose !» Je reconnais la voix de ma mère. J'ouvre les yeux et essaye de parler. Comme toujours, les mots se heurtent à la barrière de ma bouche. Je suis allongé sur la pelouse du jardin. Mon pouce me fait mal. Est-ce que Pernong me lèche le visage ? Sa bave sent le chacal. Je m'essuie la joue d'un revers de bras. « Ça va, mon gars ?» interroge Dad. Je hoche la tête. Mam soupire. Je tente de me relever, mais ma sœur stoppe mon élan d'une phrase. « Tout pour se faire remarquer !» lance-t-elle. « Arrête de le taquiner !» lui demande Mam, qui m'aide à me relever. « On va passer à table, ça ira mieux. Il est juste affamé. »« Je vais chercher la viande, » dit Dad, toujours pragmatique. « Lucie, viens m'aider !» ajoute-t-il. C'est ainsi que débute ma journée d'anniversaire. À midi, je suis tombé dans les pommes. Oh, happy birthday to Joshua.
Chapitre 4. Dernier jour de juin 1957.
Tandis que mon père, Saul Shapiro, major général à l'US Air Force, mesure l'ampleur de la charge qui l'attend sur la base spatiale d'Holoman, Lucie et moi terminons notre année scolaire au collège. Mes dernières nuits de ce mois de juin sont toutes agitées. J'en déteste chacune, ainsi que mes journées de classe. Sans le faire exprès, j'arrive systématiquement à chacune avec plus de 20 minutes de retard. Il faut croire que je déteste les changements. Ce matin, comme d'habitude, je quitte la maison à l'heure, mais en chemin, mes pensées se mettent à dévorer les minutes sans que je m'en aperçoive. L'année est déjà jouée. Je l'ai réussi haut la main. C'est pourquoi en littérature, en biologie, les profs ont laissé couler. Mais pas en maths. Miss Potter, le dragon des cours de sciences, n'apprécie pas mes retards. Et ce matin, encore moins que les autres fois. Aussitôt, la sanction tombe. « Shapiro, au tableau !» Vous allez me résoudre cette équation dardard. La classe soupire et les têtes se relèvent lentement des feuilles posées sur les bureaux. Potter, c'est sa méthode, a trouvé le bouc émissaire de sa matinée. Je dépose mon cahier et ma trousse sur ma chaise et monte sur l'estrade. Un an que je ne comprends rien à ces cours. Et ce n'est pas pour l'avant-dernier qu'il me reste ici que ça va changer. Elle le sait, je le sais. Mais elle a le pouvoir. « On vous écoute, Shapiro ?» beugle-t-elle.
« Je ne sais pas. »
Je lui réponds en regardant mes pieds plutôt que le tableau où se mélangent dans un magma indéchiffrable les formules mathématiques. Elle ne lâche pas.
« Réfléchissez. Si A est inférieur à... Désolé, je ne sais vraiment pas.
Murmure dans la classe.
Eh bien, remerciez Shapiro. Je vous colle une interro surprise, jubile-t-elle.
Je retourne m'asseoir sous le regard noir de mes camarades. Je m'en moque. Plus rien de matin depuis le 13 juin. Peut-être que je suis mort à l'intérieur de moi.
À midi, après avoir rendu copie blanche, je me dirige vers la pelouse pour manger les tartines que Mam m'a préparées. Je m'adosse à mon arbre et sors de mon sac à dos le livre que Lucie m'a offert pour mon anniversaire, « 20 000 lieues sous les mers » de Jules Verne. Je n'ai jamais été embêté une seule fois lors de mes séances de lecture en solitaire, et je sais que je le dois à la popularité de ma sœur, inversement proportionnelle à ma propre impopularité. Lucie est, de la vie générale, la plus belle et la plus charmante des cheerleaders. Et je sais que si elle n'avait pas été là, ces années auraient sans doute été un enfer pour moi. Il n'en a rien été. Et pourtant, je bégaye. Je ne joue à aucun sport. Malgré ça, ce sont eux, les sportifs, qui gardent un œil sur moi, prêts à prendre ma défense au besoin contre un mot que je pourrais glisser en leur faveur au creux de l'oreille de Lucie. Au Nouveau-Mexique, il va falloir tout reprendre à zéro. Sauf que ma sœur ne sera plus cheerleader. Elle en a fini, nous a-t-elle appris hier soir au dîner. Bref, je sens que je vais en baver avec mon bégaiement et mes livres. Je suis sûr qu'il n'y a que des bouseux au Nouveau-Mexique. En dehors des heures obligatoires au collège, je passe le temps qu'il me reste avec Tom. Nos roues de vélo connaissent chaque centimètre carré de bitume de la baie. On termine aussi dans Dumphy Park, notre dernière cabane d'enfants. Certains soirs, nous allons au cinéma. C'est la mère de Tom qui nous emmène. Je passe le moins de temps possible chez moi et avec ma famille. Je les déteste. Quand nous ne roulons pas, quand nous ne plantons pas des clous ou scions des branches, quand nous n'allons pas nous faire une toile, nous restons dans la chambre de Tom et on écoute la radio. Grâce à Tom, je me suis rendu compte que quand je chante, je ne bégaye plus. Je m'en donne alors à cœur joie, en reprenant les répertoires de Pat Boone et d'Elvis Presley. En ce début d'été, la mère de Tom décide de nous apprendre à danser. Je suis plutôt gauche, mais j'aime bien ça quand même.